Muse FM.
Émission spéciale budget participatif de Grenoble.
Avec le budget participatif, les Grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale consacrée à la mise en lumière sur notre antenne de projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Chaque semaine jusqu'à la fin du mois de mars, nous vous proposons en partenariat avec la ville de Grenoble de découvrir des projets de Grenoblois portés par la 7e édition du budget participatif. Tous ces projets et leurs porteurs seront présents le samedi 26 mars prochain au Forum des idées qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de Grenoble, une journée qui permettra au public de voter pour les projets qui leur paraîtront les plus intéressants à mettre en œuvre dans la ville. Ça sera une présélection, pas encore le vote final. Pour cette deuxième émission aujourd'hui, nos invités sont nombreux autour des micros. Nous avons tout d'abord Diego Fernandez Varaz. Bonjour Diego. Donc voilà, bien près des micros, si vous voulez nous parler. Bonjour Diego. Tu es donc directeur de la mission démocratie locale à la ville de Grenoble.
Oui, bonjour. Oui, je suis le directeur de la mission démocratie locale.
Voilà, donc bienvenue. On va te donner la parole dans quelques secondes pour justement nous parler de cette mission. Et puis nous avons donc quatre porteurs de projets avec nous. Nous avons Blandine pour le projet des coffres à jouets partagés dans nos parcs. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Nous avons Françoise pour le projet Ici Avant.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons Pierre pour le projet baptisé Pump Track pour tous.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Et enfin Jean-François pour le projet Parcours de découverte numérique du parc Jean Verlac. Bonjour.
Bonjour.
Allez, donc Diego, on va commencer avec toi. Juste pour resituer un petit peu cette mission démocratie locale, puisque le dispositif du budget participatif s'inscrit dans le cadre de cette mission, quelle est la place et le rôle de la mission démocratie locale dans la politique municipale?
Alors, la mission démocratie locale, c'est un service de la ville qui est rattaché à une direction générale qui s'appelle Ville émancipatrice. Et ça veut beaucoup dire, parce qu'en fait, on est un service qui est au service des habitants, justement pour que chacun d'entre nous, en tant que Grenobloise ou Grenoblois, puisse prendre part à la décision publique. Donc, le service, il a un rôle de support pour les autres services de la ville, pour qu'ils puissent faire participer les habitants, les accompagner dans des dispositifs que eux ils portent, des concertations ou des consultations ou des co-constructions avec des habitants, mais aussi on est un service qui porte un certain nombre de dispositifs en direct, dont les budgets participatifs, mais aussi les dispositifs de prise en compte des interpellations citoyennes, la coordination aussi des instances consultatives obligatoires comme les conseils citoyens indépendants. Et aussi, on est un service qui participe à l'évaluation, à l'analyse, à la prospective des dispositifs de participation pour la ville.
Alors, tu viens juste de le dire, donc il y a effectivement différentes actions qui relèvent de ce service, de cette mission. Plus spécifiquement, le dispositif budget participatif donc qui existe depuis 5-6 ans maintenant, c'est un outil qui est particulièrement bien adapté quand on pense à ce concept de participation citoyenne des habitants.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un dispositif qui a été, je ne sais pas si adapté, mais qui est adopté par les habitants. Donc, c'est un dispositif qui a sa 7e édition et qui fait partie de l'environnement de la participation. C'est un dispositif de démocratie directe dans lequel les habitants ils peuvent proposer et choisir pour que nous, on puisse réaliser avec les habitants des projets, mais qui s'intègre dans un environnement qui est beaucoup plus large, dans lequel aussi les habitants pourraient se dire « mais en fait, je ne vais pas proposer quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc je souhaite interpeller la ville. » Et donc, dans cet environnement, je pourrais, en tant qu'habitant, dire « cette politique municipale ne me convient pas, il y a quelque chose, et je vais passer par un autre niveau. » l'interpellation citoyenne. Ou, en tant qu'habitant aussi, je pourrais décider de participer en donnant mon avis, mon opinion sur des choses de tous les jours dans un conseil citoyen qui touche la vie de mon secteur. On a 6 secteurs dans la ville et chaque secteur a un conseil citoyen. Ou plus particulièrement sur des domaines spécifiques. Les subventions sur les acteurs culturels, un comité d'aviculture qui regroupe aussi des habitants, ou les conseils des aînés qui s'attachent à travailler sur la politique des aînés, des habitants et des habitantes de plus de 54 ans. Donc le budget participatif fait partie de cet environnement. Il est bien inscrit, il est inscrit dans l'histoire, mais il est en dialogue avec beaucoup d'autres choses qui se passent à côté.
Alors, cette préoccupation hein, de pouvoir faire participer, de donner la parole aux habitants, c'est une préoccupation qui aujourd'hui est largement partagée par toutes les collectivités, les municipalités. Pour autant, les citoyens, les habitants sont pas toujours satisfaits des outils qu'on met à leur disposition. Et y en a beaucoup qui doutent vraiment de la prise en compte de leur parole. Comment est-ce que vous gérez ça du point de vue du service démocratie locale pour rassurer les Grenoblois les plus sceptiques?
Alors, pour rassurer les Grenoblois les plus sceptiques, on essaie de travailler dans la plus grande transparence. En fait, nos dispositifs sont créés et sont mis à disposition des habitants avec des règles claires, avec un but spécifique, avec un objectif qui est clair. Et qu'on s'attache à prendre soin de regarder de quoi il s'agit et il n'y a pas tant d'ambiguïté. Par contre, ces sentiments de défiance, de méfiance envers les institutions publiques et les dispositifs de participation de manière générale, certes, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de collectivités et des institutions, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter de faire parce que ce constat, il est là. Au contraire, justement, en prenant en compte ces constats de défiance d'une partie de la population, parce que vous me voyez bien entouré, des habitants aussi font confiance. Et ils présentent des projets volontairement, non seulement au budget participatif, où ils se disent « je peux interpeller la ville sur quelque chose » ou « je peux participer dans un autre domaine ». Bon, la seule manière que je vois et qu'on essaye, nous, de s'attacher très profondément dans notre travail, c'est justement d'avoir un souci de transparence assez importante par rapport à ce qu'on fait et par rapport aux résultats qui vont apparaître après chaque dispositif. Oui, la question de la transparence, en fait, c'est l'un des piliers de toute démocratie.
Alors, on te retrouvera en fin d'émission, peut-être pour rappeler ce forum des idées dans lequel s'inscrit cette série d'émissions où l'on donne la parole aux porteurs. J'avais juste une toute dernière question pour toi, Diego. Quelque chose me dit que tu n'es pas un Grenoblois d'origine. Il y a un petit accent, tu viens d'où?
Exactement, je suis... En fait, je ne suis pas Grenoblois d'origine, mais je suis pleinement Grenoblois. Donc, je viens du Chili, je suis chilien aussi. Je suis chilien et français, donc naturalisé. Voilà,
okay.
je viens du Chili avec un parcours un peu...
Non, c'est une double culture qui doit être assez sympa. Mais bon, c'est pas le but de cette émission aujourd'hui d'en parler. Peut-être à une prochaine occasion. Hein. Donc, on va donner la parole à nos porteurs de projets parce que c'est quand même le cœur de cette série d'émissions. On va commencer par ces dames. Avec toi, Blandine, pour nous parler du projet baptisé « Coffre à jouets partagé dans nos parcs ». Donc, ça nous donne déjà un peu une idée.
Ouais, le titre en dit déjà pas mal.
Ouais. Mais avant de parler du projet, c'est la question que je pose à tous les porteurs, c'est que vous présentiez un petit peu chacun à titre personnel pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez.
Ouais, moi donc je m'appelle Blandine, j'ai 39 ans et je suis grenobloise, disons presque d'origine. J'ai toujours vécu, peut-être pas à la ville de Grenoble, mais dans l'agglomération en tout cas. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je peux dire de moi.
Très bien. Et alors, du coup, cette idée de coffre partagé, comment c'est arrivé ?
Alors, cette idée de coffre partagé, ça arrive un peu du constat que, voilà, moi, je suis mère de deux enfants, hein, ils sont assez petits encore. Et puis, en allant dans les parcs, alors souvent, c'est là où il y a des bacs à sable. On arrive voilà, avec notre enfant et puis on se rend compte qu'on n'a pas les jouets qu'il faut pour jouer dans le bac à sable. Et puis là, bon, ils se mettent un peu à piquer les jouets des autres. Hein, c'est normal, hein, ils sont petits, ils se prêtent les choses. Mais on est toujours un peu embêté parce que voilà, on voit la maman de l'autre enfant venir à la fin de la journée dire ah, « Est-ce que tu peux me rendre la pelle, s'il te plaît ? Je dois partir, on doit rentrer à la maison. » Et du coup, en voyant un peu ça, et puis en voyant comment il y avait peut-être un peu des inégalités aussi dans ces jeux partagés, de se dire, est-ce qu'on ne pouvait pas finalement, assez simplement, doter les parcs en tout cas pour enfants, de coffres à jouets dans lesquels on pourrait mettre toute une série de jouets qui servent pour les bacs à sable, mais aussi, pourquoi pas, des ballons, des jeux d'extérieur, pour que ça puisse profiter à tous. Qu'on ait les moyens ou pas les moyens d'acheter des jouets et que ça soit finalement un petit pot commun partagé de jouets. Et dans l'idée, c'est que ça marche aussi un peu, que ça fonctionne un peu comme les boîtes à livres, c'est-à-dire que si un enfant un jour part avec un jouet, c'est pas grave, peut-être que quelqu'un d'autre ensuite viendra déposer les jouets de ses enfants qu'il n'utilise plus ou essayer de faire que ça tourne un peu, que ça s'alimente par le don. Et puis voilà, que ça soit finalement partagé par tous les enfants. Je pense que les enfants, c'est le public idéal. Ils savent partager, ils savent se dire on a des choses en collectivité et puis on peut les partager avec tout le monde. Et puis à la fin de la journée, on les range dans le coffre et puis tout le monde est content. Voilà, donc c'est cette idée que je porte cette année au budget participatif.
D'accord. Et donc, a priori, pour lancer le projet, ça concernerait combien de parcs tu as choisi ?
Alors, dans l'idée, ça serait de commencer par des parcs qui seraient fermés la nuit, pour éviter un peu les actes de vandalisme ou le vol, tout simplement, des jouets. Donc, peut-être commencer par essayer de cibler les parcs qui sont fermés. On peut penser au parc Marliave, au parc Valérien Perrin, par exemple, dans le secteur 1. Au parc du jardin des plantes, le jardin des dauphins également. Voilà, tous ces parcs fermés, peut-être commencer par là. Il y a des bacs à sable, dans certains, pas dans tous. Mais commencer par ces parcs-là pour voir aussi comment ça fonctionne, si les choses marchent bien. Et puis l'idée, ça serait qu'il y en ait au moins un par secteur. Donc on va essayer de cibler avec l'équipe de la démocratie locale les parcs qui seraient plutôt éligibles à ce dispositif.
Alors, je ne l'ai pas précisé avant qu'on commence l'émission, donc je le fais en direct. N'hésitez pas si vous voulez croiser un petit peu les paroles, si vous avez des questions qui viennent. C'est pas parce que j'anime l'émission que je suis le seul autorisé à poser des questions. Ou si vous voulez faire un petit commentaire, Diego également. Faut pas hésiter, vous me faites juste un petit signe et vous prenez la parole. Alors, idéalement, Blandine, comment est-ce que tu vois le projet vivre un petit peu, parce que c'est un projet qui est fait pour durer, donc d'ici quelques années, en admettant qu'il ait été voté dans le cadre de ce budget participatif, donc ça serait quoi ? Ça serait de le généraliser à tous les parcs, ou il faut quand même à chaque fois cette idée de protéger les coffres contre le vandalisme, tu l'as dit, ou contre ceux qui viendraient se servir dans le coffre.
Alors moi je fais assez confiance quand même au bon sens humain, et puis on parle de jouets pour enfants, c'est quelque chose qui a peu de valeur, disons monétaire, mais qui, je pense, va être respecté. Bon, je suis peut-être un peu naïve, mais je me dis que ça va être respecté. Et l'idée, c'est peut-être de tester d'abord dans les parcs fermés, puis peut-être après d'étendre le dispositif à... Moi, dans l'idéal, je pense que ça serait bien qu'il y en ait partout, finalement. Qu'il y en ait dans tous les parcs. Là où il y a des bacs à sable, qu'il y en ait ou pas, d'ailleurs, des bacs à sable. Il peut y avoir des ballons, il peut y avoir des jeux de raquettes. On peut imaginer toutes sortes de jeux qui pourraient prendre place dans ce coffre. Et dans l'idéal, je pense que ça, finalement, ça marchera un peu seul sur le bon vouloir des citoyens et puis le respect des choses en collectivité, quoi.
Et ce serait donc des jouets pour enfants jusqu'à quel âge pour toi ?
Bon, voilà, je parlais de jeux de raquettes, donc ça peut être... Enfin voilà, les enfants, ils vont au parc...
Oui, ça va même jusqu'à aux ados.
Oui, voilà, c'est ça, aux jeunes ados. Donc, tant que les enfants qui fréquentent les parcs pour enfants, en fait, ça serait, voilà, essayer d'être assez large dans le spectre de ce public-là, d'enfants. J'ai pas d'a priori, en fait. Je pense qu'il peut y avoir... Enfin, je l'ai dit, des jeux de raquettes, des jeux de ballons, ça intéresse les enfants de 1 à 12 ans, quoi.
Et puis après, ça peut aussi être alimenté au fur et à mesure, hein, puisqu'on commence avec des raquettes, des ballons, et puis voir d'autres types de jouets pour le jeu en plein air. Voilà. Y a plein de choses qui sont adaptées. Une dernière question, et là peut-être que les autres, vous pouvez aussi amener votre regard, puisque tu faisais le parallèle avec les coffres à livres. Mm. Je ne sais pas s'il y a un terme exact sur
les boîtes à livres.
Les boîtes à livres, qui effectivement, on en trouve un petit peu à droite, à gauche. Globalement, c'est bien respecté par la population. Ces boîtes à livres, parce qu'on le disait, effectivement, voler les livres pour les livres, c'est peut-être pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a toujours certains qui se distinguent avec le plaisir de casser un peu ce qui existe. Alors, je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais, j'ai jamais fait d'émission sur les, les boîtes à livres. Donc, par rapport à vous, la connaissance que vous en avez, ça va, ça fonctionne bien et c'est respecté.
Alors moi, l'exemple que j'ai, il marche bien. Après, en parlant justement avec les équipes du budget participatif, j'ai aussi compris que ça ne gérait pas complètement tout seul. Donc il y avait parfois des associations ou les maisons des habitants qui participaient aussi un peu à la gestion de ces choses-là pour que les boîtes à livres finalement vivent. Il fallait aussi pouvoir un peu les alimenter. Mais moi, l'exemple concret que j'ai, c'est une boîte à livres qui se gère toute seule et elle marche bien. C'est respecté, il n'y a pas de... Enfin voilà, la qualité des ouvrages, elle est variable, mais en tout cas, c'est assez respecté. Mais
je pense d'accord. Diego, tu veux rajouter quelque chose ?
De manière générale, les boîtes à livres, elles sont assez respectées. Il y a des endroits où on a plus des dégradations du matériel que d'autres, mais ce qui est riche dans ces expériences, comme celle du coffre à jouer, c'est que la notion de vol, elle disparaît. La boîte à livres, elle est là pour partager ce que dont on n'a plus besoin à ce moment-là, et quelqu'un peut les prendre et partir avec. Il n'y a pas de vol. Et ramener, quelqu'un d'autre va ramener quelque chose d'autre pour les partager. Et considérer ces biens, ces biens littéraires, comme un bien commun. Et dans ce sens-là, en fait, là où c'est présent, soit les boîtes à livres du budget participatif, que d'autres boîtes à livres qui sont dans l'espace public, elles fonctionnent assez bien.
Ok, donc c'est plutôt encourageant pour cette idée de coffre à jouer dans les parcs. Merci Blandine.
Merci
pour cette présentation. On va enchaîner avec Françoise pour un projet, une idée que tu as baptisée Ici, Avant.
Alors, Ici, Avant est le premier de mes projets de cette année, puisqu'effectivement, j'en ai un autre qui sera présenté ultérieurement dans le cours de ces émissions. Et ce n'est pas la première année que je présente des projets, puisque déjà l'année passée, je m'étais lancée dans cette aventure participative. Et ma propre histoire est que je suis habitante permanente de Grenoble depuis 2 ans, depuis que j'ai pris ma retraite. Et je suis venue m'installer à Grenoble parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans lesquels je ne rentrerai pas aujourd'hui, qui me plaisaient dans cette ville. Précédemment, j'ai été ailleurs en France. Voilà. Pour des raisons professionnelles. Mmh. Mais je venais quand même à Grenoble, mais en tant que touriste, vacancière. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître. Et si l'année passée, dans un des projets qui a été lauréat et qui est en cours de réalisation, j'ai un peu cherché à interpeller la ville sur un besoin et également dans une démarche, on va dire, écologique de développement durable. Donc, c'était mon interpellation qui a apparemment plu. Cette année, pour ce projet Ici, Avant, je suis davantage dans une démarche patrimoniale. En effet, bon, on sait bien que cette année, Grenoble a reçu, est devenue capitale verte européenne. Mais ce qu'on oublie un tout petit peu, c'est qu'en 2017, donc il y a 5 ans, Grenoble a été labellisée ville d'art et d'histoire. Alors, ville d'art et d'histoire, c'est à la fois une récompense et un encouragement à mettre en valeur, soit dans une ville, soit dans un territoire, le patrimoine, en le faisant connaître, en le mettant en valeur, bien sûr aussi en le préservant. De la sorte, ça s'applique, ça s'adresse à tout le monde, à nous, les habitants, aux touristes, éventuellement, en tant que bénéficiaires, mais ça s'adresse également aux décideurs. Mais pour les décideurs, c'est plus dans la partie conservation, parce qu'il va falloir mettre de l'argent, évidemment, pour conserver le patrimoine, et également en créant des dispositifs qui vont permettre de faire connaître. Alors certes, il y a des visites guidées. Certes, les écoles de la ville, voire les collèges, même s'ils sont gérés par le département, ont été encouragés à emmener leurs élèves, pas à l'autre bout du monde, mais dans la découverte de leur ville. Mais quand on va découvrir sa ville, quand on profite des Journées européennes du patrimoine ou d'autres dispositifs, on cesse d'être un habitant, on devient touriste, ne serait-ce que l'espace de quelques heures, une journée. L'objectif de ce projet présenté aujourd'hui, c'est que dans nos démarches habituelles, en tant qu'habitants, en tant que personnes se déplaçant dans la ville pour aller travailler, que ce soit dans un emploi, un métier, que ce soit parce qu'on va à l'école, que ce soit parce qu'on va au parc pour s'amuser, dans un autre parc pour le découvrir, où que l'on soit dans cette démarche de touriste, pendant qu'on attend un bus, pendant qu'on va faire des courses. Donc, dans une vie, tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, ordinaire et quotidienne, eh bien, il faudrait qu'à partir d'un dispositif que je mettrai au vote, on puisse découvrir la ville telle qu'elle était il y a un siècle, voire davantage. Et bien sûr, il existe des dispositifs, comme je viens de le dire, des visites guidées. Il peut même y avoir des dispositifs numériques, comme flasher sur un QR code, et à ce moment-là, sur son téléphone portable, on voit ce qu'on a à dire, enfin, ce qui est à dire à propos de tel ou tel lieu. Mais là, c'est déjà s'engager de manière active. Là, dans ce projet, eh bien, ce sera de manière passive, mais sans doute provoquant un intérêt, on découvre une photo ancienne, on peut être un habitant de la ville neuve et se dire pourquoi ça s'appelle ville neuve. Est-ce que c'est une ville neuve qui a 1 an, 2 ans, 50 ans? Mais alors si elle est neuve, qu'est-ce qu'il y avait avant? Quand on est en centre-ville, de découvrir que la rue qu'on emprunte, ben, elle a été créée dans les années 70, sera peut-être un choc culturel et en plus, j'espère, une distraction. Donc l'organisation serait des panneaux, un peu comme les panneaux que la ville a installés en remplacement de tous les panneaux publicitaires qui ont pu exister. Là, ça serait des panneaux fixes, montrant une belle photo, une belle reproduction d'un tableau ou d'une carte postale ancienne. La taille serait à peu près comme un écran 90 cm.
Un gros écran, oui. Donc quand même des panneaux qui soient visibles, qui soient bien visibles. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir la même vue qu'on a aujourd'hui avec la vue de la façon dont c'était avant.
tout à fait confronté.
Et ça serait uniquement des images ou il y a aussi un texte qui serait prévu?
Il pourrait y avoir un tout petit texte, mais qui serait guère plus qu'une légende. Éventuellement, on pourra réfléchir ensemble avec peut-être d'autres porteurs de projets ou avec des personnes de la démocratie locale pour savoir si on met un QR code pour aller plus loin.
Oui, voilà, qui peut nous en renvoyer si on veut avoir davantage d'informations.
Davantage de renseignements. Mmh. Mais l'idée est que vous circulez dans un bus. Dieu sait qu'on n'est pas actif quand on circule. On attend simplement notre arrêt. Eh bien non, on va apercevoir en confrontation le passé et le présent.
Donc là, ça démarrerait des images qui seraient trouvées. Hein. On ne peut pas dire, bah tiens, voilà, il y a cette rue-là, j'ai envie de mettre le panneau. Parce que si l'image n'existe pas du passé, donc il faudrait d'abord rassembler des images de certains lieux.
Alors effectivement, ce type de document peut se trouver au musée de Grenoble, si c'est un tableau, mais peut se trouver également, d'ailleurs j'en ai déjà trouvé, aux archives municipales, voire, là c'est une collectivité sœur, si on peut dire, le département, le musée dauphinois possède un fonds de cartes postales et un fonds photographique libre de droit, puisqu'on n'aura aucune exploitation commerciale, et qu'ils mettent très très volontiers à disposition. Donc, la difficulté sera moins dans la recherche que dans le tri, tellement il y a une richesse que peu d'habitants connaissent. Alors qu'en réalité, s'ils sont à faire leurs courses dans leur quartier, ça pourra être une source de fierté pour eux, puisque leur rue, leur quartier gagnera une historicité qui les ancrera avec, j'espère, fierté dans leur secteur.
Est-ce qu'il y aurait aussi un appel auprès de la population qui disposerait dans leurs propres archives, dans leurs greniers d'images? Parce que souvent, c'est ce que font les musées ou des actions, justement, pour retrouver des images du passé. Souvent, la population est sollicitée pour venir alimenter les fonds d'archives.
C'est effectivement une idée qui est, enfin, il faut bien le dire, excellente, parce que nous sommes justement dans une démarche de démocratie participative. Et le jour du forum en particulier, il pourrait y avoir un appel à qu'est-ce que vous avez comme trésor. Effectivement, bon, c'était à l'occasion de la rénovation d'un immeuble du centre-ville, des habitants, des voisins, d'autres immeubles, ont dit « mais j'ai un tableau d'un peintre, en l'occurrence c'était un peintre grenoblois, un certain Hareux avec un H, qui possédait, mais à titre totalement privé, pas d'une grande valeur marchande, hein, mais à titre de plaisir personnel, un tableau qui montrait l'immeuble en question en train d'être construit en 1905, et on voyait même un troupeau de moutons en train d'aller aux abattoirs qui étaient sur les quais, et on voit la chaîne de Beldon au loin. Donc, cette personne était prête à partager, sans mettre son nom, pour que, bien sûr, il n'y ait pas d'ennui, quoi, ultérieurement. Mais effectivement, les sources sont multiples.
Voilà donc une présentation assez complète de Françoise de ce projet. C'est baptisé ici, avant, et tout comme le projet de Blandine, c'est à retrouver à la fin du mois de mars au Forum des idées. Vous retrouverez tous ces porteurs qui vont se succéder dans le cadre de nos émissions. Vous pourrez les rencontrer de vive voix et discuter de leurs projets. On va faire une petite pause musicale avant de donner la parole aux messieurs qui vont à leur tour nous présenter leur idée dans le cadre de ces projets qui sont pas encore sélectionnés. Hein. Pour l'instant, c'est tout le monde qui présente ses idées. Ensuite, il y aura des présélections très bientôt jusqu'au vote final dans le cadre du budget participatif. Allez, on fait une pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Ah. Tu peux ranger tes questions, je suis pas venu causer, on est venu manger nous. On peut tout négocier, j'ai fini le projet, j'ai refait un projet, ouais. J'arrive la bague au doigt, mais le procureur veut le bracelet. J'arrive la bague au doigt, mais le procureur veut le bracelet. Et moi, je m'occupe de mon business, pendant que madame va faire du fitness. Piu piu dans la boîte à gants SLS, AMG, comparagé, on est où là? C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. On savait quand elle allait finir. Comme si on savait qu'un jour je devais revenir. Suffit d'une galère pour connaître sa famille. Suffit d'un mandat pour trouver le sourire. Pompe, moula, ça dépend des semaines. Habitude des fouilles, c'est plus dans la semaine. Le collier est trouvé, clin d'œil au SS. Pépère, je t'envoie le petit rêve, prends ton espèce. Le petit t'envoyait chez l'épicier. C'est lui qui va reprendre ton terrain. L'argent ne connaît pas la pitié. On verse pas de la main dans Gouma. Aïe, 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 on t'a parlé, t'as douté. Et t'as fumé ma moula, t'as toussé. À tout moment, frère, ça peut péter. C'est la saga cité, ouais. La saga, la saga, la cité. C'est la saga cité, ouais. La saga, la saga, la cité. Ouais.
C'était pas de la musulmane, c'était pas de la blague. C'est du
Surlieu,
c'est du
Kosovo. Ouais. C'est la saga cité. Ouais. La saga, la saga, la cité.
On peut décaler chinois.
C'est la saga cité. Ouais. La saga, la saga, la cité.
On peut décaler chinois.
Il est 13h04 sur l'antenne de News FM et on se retrouve donc pour poursuivre la discussion, en tout cas la présentation de ces projets présentés dans le cadre de la 7e édition du budget participatif de la ville de Grenoble. Je le rappelle, hein, donc on est engagé dans une série 10 émissions qui vont nous mener jusqu'à la fin du mois de mars, juste à la veille du Forum des idées qui aura lieu le samedi 26 mars à l'hôtel de ville de Grenoble, un forum où le public est invité à rencontrer les nombreux porteurs de projets qui ont des idées pour agrémenter la ville de Grenoble, le territoire de la ville de Grenoble en projets divers et variés, mais toujours citoyens et solidaires. Donc, après les deux projets précédents de porteuses que l'on vient d'entendre, on passe avec la partie de projets portés par des hommes. C'est Pierre et Jean-François qui vont nous parler maintenant de leur projet. On enchaîne tout de suite avec Pierre pour un projet qui s'appelle Pump Track pour tous. Alors évidemment, grande question, mais qu'est-ce que c'est un pump track ?
Eh ben, bonjour à tous. Du coup, un pump track, c'est une piste en boucle fermée avec plein de bosses plus ou moins grosses et des virages relevés, plus ou moins relevés. Et donc, du coup, l'idée, c'est que en fait, il peut y avoir tout niveau de piste. Il y a souvent une catégorisation des pistes de couleurs, un petit peu comme au ski. Donc, piste verte, bleue, rouge, noire. Je crois pas que j'en ai vu, mais en tout cas, on doit pouvoir en trouver aussi. Mais sur la métropole, là, je ne crois pas qu'il y en ait. Si ?
Si, il y en a une à Montbonneau.
À Montbonneau, il y en a une.
Mais elle est fléchée blanche, puisque noire sur goudron, ça ne se voit pas.
Ah, et ben, ouais, et ben, d'où la subtilité. Mais voilà. Donc, du coup, C'est une infrastructure sur laquelle peut s'amuser vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et avec différents équipements sportifs, on peut faire du vélo, du BMX, du VTT, du roller, du skate, de la trottinette.
Donc, tout le monde se retrouve en même temps sur la piste.
Alors, il y a des règles de circulation, mais du coup, les petits sont plutôt sur les petits ou les débutants sont plutôt sur les pistes vertes. Les gens qui commencent à maîtriser un peu plus le système vont vite sur les pistes bleues, et puis les experts un peu plus sur les pistes rouges. Et puis, en fonction des moments d'affluence aussi, on va avoir différentes règles de circulation. Mais globalement, en tout cas, sur les différentes installations qu'il y a sur la métropole, ouais, ça circule facilement. Sans, alors, il y a toujours des petits accidents, hein, c'est des sports à roulettes. Donc
il faut avoir des protections.
Bah, c'est bien d'avoir des protections.
Pour pouvoir rouler sur le pump track.
Ouais. C'est une activité.
Mais là,
comme
c'est dit, hein, c'est pour tous, donc tous les âges.
Exactement. Moi, je suis papa de deux enfants aussi qui sont petits, hein, qui vont avoir 3 ans et 5 ans, et qui tournent déjà depuis pratiquement un an, les deux, ils tournent sur les petites pistes. En vélo, en trottinette, en draisienne. J'ai oublié la draisienne tout à l'heure.
Qu'est-ce que c'est
la draisienne, c'est les vélos sans pédale. Donc c'est les vélos...
Sans pédale.
Ouais, c'est les vélos premier
âge. Je connaissais les vélos, mais sans cadre, hein, ceux qui sont sur une roue.
Eh ben, c'est un petit mix entre un vélo et une trottinette, en fait.
D'accord.
C'est un vélo où tu es assis sur une selle, mais tu pousses avec tes pieds. Donc
c'est plus pour les enfants, alors.
C'est pour les tout-petits, ouais. En général, ils attaquent ça vers un an et demi, deux ans, quand ils commencent à être bien à l'aise à la marche. Et puis c'est un peu une nouveauté, je crois que ça fait pas si longtemps que ça existe, mais je dirais 5-10 ans que ça existe, les draisiennes.
Bah, en fait, la draisienne, c'est l'ancêtre du vélo.
Oui, donc ça existe.
Ça a été inventé avant le vélo, avant qu'on invente la chaîne.
Et puis il y avait les enfants qui donnaient à dos, qui avaient toujours leur petit vélo, ils finissaient par faire de la draisienne, mais obligés.
Ça fait quelques années qu'on n'en voyait plus.
Oui, par contre, ouais, c'est vrai que moi, petite, j'ai pas eu de draisienne. Mais par contre, oui, nos enfants, oui, ça doit faire 10 ans que... Ouais. C'est quelque chose d'un peu obligatoire. Un enfant, il commence par avoir sa draisienne. Il a 2 ans, il a sa draisienne.
Oui, sinon, il faut avoir les roulettes pour tenir. Hein.
Et c'est comme ça qu'il apprend l'équilibre. Et en fait, on s'est rendu compte que quand ils utilisaient des draisiennes, ils arrivaient à faire du vélo sans petite roulette.
Voilà. D'accord, donc c'est bien formateur.
Exactement.
Et pour revenir justement sur cette appellation, pump track pour tous, ça veut dire quoi? Qu'en général, les pump track qui existaient, c'était plus pour certaines catégories d'âge?
Je crois pas. J'ai l'impression que, en tout cas, celui sur lequel je vais beaucoup avec mes enfants, qui est à Montbonneau, qui est vraiment très prisé par les Grenoblois, parce qu'à chaque fois qu'on y va, bah, déjà on est obligé de prendre la voiture, alors que nous on est quand même, on vit à Grenoble, on travaille à Grenoble, donc on aime ne pas prendre la voiture, et du coup, bah, on est obligé de sortir de la ville et de prendre la voiture pour aller sur cette infrastructure. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de Grenoblois qui font la même chose parce que bah, c'est une infrastructure qui manque dans notre ville. Et après, je sais qu'il y en a d'autres à Vif, à Gières, il y en a à Villard-de-Lans aussi, c'est un peu plus loin. Celui de Villard se rapproche quand même vachement de celui de Montbonneau. Et par contre, par exemple, celui de Vif, il est beaucoup plus... accès pour les plus grands déjà. Moi, les petits, par exemple, je les emmène pas parce qu'il est trop dangereux. Donc, du coup, c'est aussi cette idée-là de pump track pour tous. C'est vraiment créer une structure qui puisse vraiment rassembler un univers large d'âge d'enfant. Quoi.
Et enfin, ça suppose une surface minimum de combien?
Je me rends pas bien compte, ça, mais. On attend justement, c'est un peu le principe des budgets participatifs, c'est qu'en fait, une fois que le budget peut être voté, c'est là qu'on discutera de tout ça avec les services techniques de la ville. Ça peut être petit, mais ça peut être aussi immense. je pense que ça dépend en fait du budget plus que de nos envies.
Mais... Enfin, il y a quand même une surface minimum si on veut bien circuler, s'il y a du monde dessus, ça suppose plusieurs pistes, plusieurs couleurs.
Je me rends pas compte.
Ouais, alors moi, j'interviens un peu parce que l'année dernière, j'avais porté ce projet de pump track. Bon, cette année, je suis super contente de savoir qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à ça. Ça prouve que Il y a un intérêt, en fait, une envie là-dessus.
Un besoin.
Et un besoin, ouais. Mm-hmm. Parce que Pierre l'a dit, voilà, on est obligé de prendre sa voiture aujourd'hui pour y aller. Et du coup, quand j'avais participé au forum, je donnais comme exemple qu'on était dans le hall, justement, de l'hôtel de ville. Bon, je pense que tout le monde est allé une fois faire son passeport, etc. C'est à peu près cette taille-là, quoi, comme le hall de l'hôtel de ville.
Ça, D'accord, donc ça suffirait. Finalement, c'est pas si grand que ça.
Voilà, ça suffirait pour avoir une pump track avec plusieurs pistes.
D'accord.
Donc, voilà, ça prend pas tant de place que ça. C'est pas un truc immense, en fait.
Oui, parce qu'on s'imagine tout de suite.
Parce qu'en fait, comme c'est une boucle fermée, du coup, ça fait des virages, puis c'est assez serré, et on arrive à concentrer ça, quoi. Ça fait comme un plat de nouilles, un peu, quoi, le dessin du circuit.
Voilà. Ok. Et alors, dans le cadre du projet tel que tu le présentes, Pierre, tu es tout seul ou vous êtes plusieurs?
Non, on est plusieurs. Ouais,
Tel que vous le présentez tous, vous avez déjà une suggestion de lieu qui serait adapté?
Eh ben, je crois que Blandine pourra répondre aussi à ça. Mais le nom exact du parc, je ne l'ai pas, mais
il se trouve où?
L'idée, ce serait d'être plutôt vers les berges de l'Isère.
Ouais.
C'est justement dans ce nœud un peu routier entre le parc Mistral et puis l'Isère. Il y a un peu de place.
Le parc de l'Île d'Amour?
Non, c'est pas le parc de l'Île d'Amour. Non, on n'est plus à Grenoble, donc c'est plus
effectivement, plus budget participatif. C'est la règle, il faut que ça reste sur le territoire Grenoble.
Non, c'est un parc assez petit qui se trouve entre le boulevard Diego, Jean-Pin.
Tu sais de quel parc il parle, là?
Oui, je sais de quel parc il s'agit, mais je ne connais pas le nom non plus.
Ah, voilà,
je crois que c'est juste en face du parc Mistral, de l'autre côté du boulevard Jean-Pin, et avant de traverser l'Isère, le pont de l'Isère.
Voilà. Okay. En fait, je crois qu'il s'appelle le parc des berges de l'Isère, je ne suis pas sûr. Hein.
D'accord.
C'est une zone qui est déjà un peu désaffectée ou qui a déjà été un peu réinvestie par des jardins partagés. Et qui a déjà plein de mouvements de terrain, qui est assez verdoyante. Donc ça peut être intéressant d'intégrer une infrastructure dans ce lieu.
Oui, Diego, vas-y, prends le micro.
Oui, je voulais dire que justement là, à ces stades-là, on ne peut pas parler d'emplacement. Ça peut être une idée.
Voilà.
Effectivement,
oui,
on est dans les forums des idées.
C'est pour ça que je demandais s'il y avait déjà des suggestions de la part des porteurs.
Et tout à fait après.
Parce qu'après, c'est à étudier, bien sûr.
Juste après le forum des idées, les idées deviennent des projets. Et les projets seront instruits par les services pour voir quelles sont les limites, aussi bien juridiques et budgétaires, et qui est matériel pour réaliser les projets. Et donc, c'est vraiment des choses qu'on voit dans une étape après.
D'ailleurs, tu peux garder le micro, Diego, juste pour nous rappeler, on l'évoquait la dernière fois, mais je pense que c'est bien dans chaque émission de rappeler, pour savoir comment ça fonctionne exactement. Le budget participatif, donc, ça dégage une petite enveloppe, un financement pour lancer les projets, mais il y a quand même certaines règles. Hein, c'est que, en fait, ça sert pour tout l'aspect matériel.
Oui, en fait, il s'agit d'un
budget. Ça ne va pas servir pour financer, pour payer, par exemple, des salaires de ceux qui vont faire vivre l'activité.
Tout à fait. Il s'agit d'un budget d'investissement de 800 000 euros actuellement. Et donc, qui dit investissement, il dit aussi la production matérielle, principalement. Donc, il s'agit des travaux, de la construction, de la création des espaces et qui est principalement pris en charge par des prestataires. C'est de l'investissement. Donc, voilà.
Ouais.
Donc, ça, c'est une règle principale du budget participatif. On ne touche pas des subventions ni des salaires pour un projet.
Et donc, tu rappelais cette somme. Donc, c'est 800 000 euros pour l'ensemble des projets qui seront votés. Et c'est au fur et à mesure, le premier projet, celui qui sera lauréat, va avoir une partie de l'enveloppe. Mais après, chaque projet n'aura pas forcément la même somme. Hein. C'est une fois que les 800 000 euros seront...
Oui. Les projets qui sont soumis au vote du budget participatif suivent une instruction technique qui va déterminer les montants qui va être soumis au vote des habitants. Donc les habitants ils vont se positionner sur un projet qui va être éventuellement placé dans un lieu ou pas, ou toute ville, parce que c'est dans plusieurs emplacements, mais aussi à qui est attribué un montant. Comme ça, les personnes vont pouvoir se positionner en connaissance des causes, de combien ça va coûter environ Relativement, parce qu'on sait un projet commence à un moment, ça finit à un autre moment. La crise sanitaire nous a appris que les budgets ne sont jamais les mêmes. Par exemple, la montée du coût du bois, par exemple. Et donc ensuite, au moment du vote, il y a une priorisation. Les projets les plus plébiscités passent en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et à la fin, et on fait justement, et à chaque fois, on enlève les montants du projet à ces budgets généraux de 800 000 euros. Et à la fin, on peut repêcher des projets, éventuellement s'il y a des projets qui rentrent dans la marge du restant.
Voilà. Alors, du coup, et ça sera ma dernière question pour ton projet, Pierre, c'est que idéalement, si le projet passe, il est voté, les Grenoblois le veulent, ils veulent un pump track sur le territoire de la ville. Derrière, pour le faire vivre, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait monter une association, il faudrait un collectif de bénévoles, ou est-ce que ça peut fonctionner tout seul ?
Ah, je pense qu'il doit y avoir quand même un peu d'entretien. Ça sera une infrastructure appartenant à la municipalité. Donc j'imagine qu'il faudra quand même entretenir. Ce sera un peu associé à des espaces verts, à tout ça. Donc oui, j'imagine qu'il y aura un peu d'entretien.
Mais ton idée, à toi, et puis ceux qui sont derrière aussi, c'est pas de mettre en place une structure.
Non, je crois pas. Après, ça peut être porteur de ça par la suite. Mais en tout cas, l'idée de base, non. Après, il peut y avoir des clubs qui se rallient au projet, il peut y avoir des associations qui se rallient au projet. Tout est imaginable, en fait. Mais l'idée de base, c'est de créer une infrastructure pour justement pouvoir se rassembler et profiter de ça. Et puis justement, après, imaginer tout ce qu'on a envie d'imaginer.
Merci pour cette présentation. Et puis, on va maintenant donner la parole au dernier projet présenté aujourd'hui par Jean-François, qui a patiemment attendu son tour. Donc, Jean-François, rebonjour. Ton projet s'appelle « Parcours de découverte numérique du parc Jean Verlac ». Est-ce que ça rejoint pas un petit peu aussi le projet de Françoise sur cette valorisation?
On peut faire un bout de chemin ensemble sur ce type de concept, de parcours, là.
Alors d'abord, quelques mots pour te présenter.
Alors, je suis Isérois de naissance et Grenoblois depuis 30 ans à la retraite, depuis baby-boomer, depuis longtemps. Voilà. Et parmi mes passions, mes centres d'intérêt, effectivement, mes petits constats aussi, je me suis aperçu que dans ce parc, il y avait beaucoup de potentiel, très peu pas d'utilisation, mais si de temps en temps, par exemple, des écoles un peu privilégiées peuvent pratiquer de la course d'orientation dans le cadre de leurs activités scolaires. C'est assez exceptionnel de pouvoir ouvrir la porte de sa classe et de partir dans la nature avec des petits défis. Donc là, il s'agit plus d'un défi parce que ce projet n'est pas nouveau pour moi. Il a évidemment évolué, heureusement. On l'aménage au fur et à mesure. Et donc, j'ai quitté un peu cet aspect orientation avec une idée de performance ou de défi un peu, comment dire, éloigné de tout ce qui peut être maintenant la biodiversité, le patrimoine pour rejoindre le projet. Donc, c'est une déambulation, on l'appelait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours imposé, ce n'est pas un circuit, c'est en libre choix. Et donc, numérique, ben, c'est la forme la plus adaptée, je pense, à pouvoir enrichir sa culture. Tout à l'heure, notre collègue parlait de QR code pour aller plus loin dans l'indice qu'on nous a donné au début. Voilà, numérique. Et puis, un autre aspect aussi, on l'évoquait avec Blandine par rapport à et boîte à livres, les risques de détérioration. Au moins, il y aura de choses physiques, au moins, on aura de chance d'avoir des dégradations, quoi.
Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait à certains endroits du parc des petits panneaux?
Non, il n'y a même plus de panneaux.
Bah alors, les QR codes, on les trouve
même
où?
Même plus non plus.
Ah ben, tu évoquais à l'instant l'idée d'un...
Non, c'était l'idée d'une époque, là, pour moi. Hein,
le côté numérique, comment il se traduit
Par géolocalisation, comme... vous avez des activités type géocache et autres qui consistent à chercher des trésors. Il n'y a rien. Hein. Il faut simplement être au bon endroit et valider que... l'application valide par géolocalisation que vous êtes au bon endroit.
D'accord. En fonction de... Donc en tout cas, ça suppose qu'il faut qu'on ait son smartphone avec soi. Tout le monde, là, de toute façon, aujourd'hui.
C'est bien que j'ai des remarques depuis dans ces nombreuses années, là. Et la version papier, mais c'est pas du tout le même potentiel.
Ouais, bien sûr.
La même souplesse non plus, l'actualisation, l'interaction avec les utilisateurs aussi, quels avis ils ont eu sur... voilà.
Donc, alors concrètement, ça veut dire quoi? Je me balade dans le parc Jean Verlac, j'ai mon téléphone, mon smartphone là, sous la main, et qu'est-ce que ça va me donner comme information?
Je me mets au défi de trouver l'endroit où, à partir d'un choix de thématique, par rapport à patrimoine, par rapport à biodiversité, et d'autres sujets, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, et puis... m'enrichir à travers les liens que je pourrais faire après quand je serai au bon endroit. C'est l'idée du plus, là. Et voilà, ça peut se faire en tribu, en famille, en solo. C'est pas très marrant, mais pourquoi pas.
Donc, c'est un peu comme un jeu de piste.
Voilà.
On se promène, il faut trouver...
Il n'y a rien imposé. C'est vous qui vous mettez votre propre défi, votre propre centre d'intérêt... est confronté à un petit peu d'orientation quand même, c'est-à-dire qu'à partir de la carte, il faudra bien aller au bon endroit.
Ah, donc il faut une carte.
Mais la carte, elle sera sur le smartphone, forcément, voilà.
Uh-huh. Et tout ce côté numérique arrivera à mettre ça en place. Tu as une petite équipe, tu as des gens.
Moi, je ne suis pas dans le code, loin de là. Un tout petit utilisateur. Non, là, c'est le budget, là, il va servir à payer une application, c'est-à-dire qu'il y a des pros du code qui vont... Ça existe déjà, hein. Il y a des parcours, je pense... Et même, il y a même des services plus ou moins académiques, je pense à ce qui a remplacé le CRDP, la Canopée, qui développe des concepts numériques, forcément, pour l'éducation. Donc il y a déjà de l'expertise sans problème, là-dessus, là. Il suffit de l'adapter, Donc le budget, c'est principalement, on va pas payer le satellite qui va nous géolocaliser, c'est pas ça le but du jeu.
À mon avis, 800 000 euros, ça suffira même.
Oui, ça suffira pas. Voilà.
Ouais, d'accord. Idéalement, si encore une fois, c'est un peu la question que je pose à la plupart des porteurs, peut-être pas tous systématiquement, mais souvent, si tu te projettes un petit peu dans l'avenir, le projet a été voté, il a eu sa petite enveloppe, est-ce que le fait de mettre ça en place sur le parc Jean Verlac, ça serait un début? L'idée, ça serait ensuite de reconduire ça sur d'autres lieux?
Oui, pourquoi pas sur le principe, bien sûr. On va pas faire une exclusivité là, sur le parc. Mais il y a déjà beaucoup de travail, je dirais, vraiment du travail d'investissement pour aller chercher de l'expertise, pour mettre en valeur ce qu'on a plus ou moins identifié, rencontrer effectivement des gens qui ont des archives ou plein de choses comme ça. Donc il y a tout un travail de recensement qui, dans l'idéal pour moi, devrait se faire avec des structures d'éducation populaire locales. Voir, et pourquoi, enfin je vous dis pourquoi, je vais voir, avec des collégiens sous forme de clubs qui prennent en main leur environnement et qui se cultivent, recherchent, mutualisent, enfin bon, toute cette dynamique pour être fier, comme disait tout à l'heure notre collègue, d'être fier de son territoire.
Et pourquoi commencer à Jean Verlac?
Parce que j'y habite et que j'ai plein d'indices. qui m'intrigue, je prends un petit exemple, École des Trembles. Ah bon, École des Trembles, qu'est-ce que c'est qu'un tremble? Mais en fait, est-ce qu'il tremble? Et comment il tremble s'il tremble? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, un peu ludiques, un petit peu... Parce que bon, les personnes qui s'intéressent depuis très longtemps à l'environnement, pour parler d'un mot un peu vieux déjà, ont développé plein de stratégies pédagogiques, ludiques, attractives... Et il suffit de les mettre en scène maintenant sous forme numérique, quoi. Entre l'exploitation un peu poétique ou artistique d'un arbre. Et je voyais, en venant sur Jean Perrault, là, il y a des petites étiquettes sur les nouvelles plantations. Être de Hongrie, l'arbre de l'ombre. Ah bon, d'accord, oui. Donc même la ville déjà a enclenché cette idée. On se couchera moins bête ce soir, quoi. On aura appris quelque chose.
Et puis pourquoi pas croiser aussi hein, les projets, parce que pourquoi pas mettre en place au parc Jean Verlag une vue du
oui,
parc.
Parce que moi je suis comme Blandine, je suis peut-être un peu naïve, mais je fais quand même confiance. Moi je suis naïve et il me semble que allez on peut tout de suite dévoiler ce qui m'intéresse dans ce parc d'un point dans le cadre de mon projet, c'est que combien de personnes savent qu'il y avait un aérodrome avant ? Donc, voir l'aérodrome avec,
tout à fait.
Avec les petits coucous, les petits avions qu'on peut retrouver au... comment il s'appelle l'aérodrome de Grenoble ?
Versou.
Le Versou, pardon. Mmh. Bah oui, moi je connais que celui du parc Verlac, pour l'avoir vu. Eh bien, ça serait un moyen de rendre les gens... ceux qui viennent jouer dans le parc, perplexes. Et du coup, se dire, mais on pourrait s'envoler avec lui. Et pas simplement trembler avec lui.
L'un peut aller avec l'autre. Hein.
Oui.
Quand on se retrouve dans un avion, on peut trembler et puis être dans les airs. Voilà, donc la mission arrive à son terme. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les cinq. D'avoir été présent et les quatre porteurs de nous avoir présenté leurs projets. On rappelle que ces projets et d'autres, ces idées et d'autres hein, seront à retrouver le samedi 26 mars au Forum des idées qui aura lieu à l'hôtel de ville de Grenoble. On ne manque pas de le rappeler dans chacune de nos émissions. Donc je rappelle bien que nous avions avec nous aujourd'hui Diego Fernandez Varas, directeur de la mission démocratie locale à la ville de Grenoble, Blandine pour le projet des coffres à jouets partagés dans nos parcs, Jean-François pour le projet parcours de découverte numérique du parc Jean Verlac, Françoise pour le projet ici avant et Pierre pour le projet Pump Track pour tous. Merci à tous les cinq et bonne chance pour vos projets.
Beaucoup.
Le 26 mars, voilà, on
Merci.
Se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec des porteurs de projets. Ça sera vendredi prochain, précisément à 12h30, en direct et toujours dans un esprit citoyen et solidaire. Très bonne journée à tous et à bientôt.
C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr.